m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie,
avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Oui, vous êtes sur Radio Courtoisie, à milieu lundi, Hardy. Et au menu de Restons Courtois ce soir, un sujet grave qui est celui du placement abusif des enfants qui sont parfois arbitrairement retirés à leur famille. Donc chaque année, des milliers de mineurs sont confiés aux services sociaux au nom de leur protection. Donc c'est une mission de l'État qui est parfois nécessaire, mais qui manifestement est aussi parfois tout à fait contestable à cause d'abus manifestes qui se soucient assez peu de l'intérêt des enfants, des drames provoqués et puis des conséquences tout simplement sur la vie de ces enfants, sans parler évidemment du droit des parents à garder leur enfant près d'eux, voire à simplement maintenir un contact avec eux. Alors c'est pour ça que ce soir nous allons évoquer avec l'association Unis pour nos enfants ces sujets et essayer de voir ce qui est légitime et ce qui l'est moins, et ce qui pourrait être fait éventuellement pour améliorer cet état de fait. Rendez-vous de la réinformation ensuite avec les manifestations du 1er mai. Les syndicats et formations de gauche donc ont organisé plusieurs défilés ou événements en province, et à Paris. Le RN était à Mâcon pour évoquer le travail et les droits des travailleurs. Marion Maréchal était à Domrémy pour rendre hommage à Jeanne d'Arc et célébrer la nation. LFI et les syndicats étaient à Paris notamment et en province, donc où ils ont réuni apparemment plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et Gabriel Attal, lui, était dans une boulangerie. Alors, est-ce qu'il était pour acheter un petit déjeuner? Manifestement, c'est avéré. Est-ce qu'il s'inscrivait dans une démarche poujadiste pour inciter les commerçants à enfreindre la réglementation? Est-ce qu'il était là pour faire repentance parce qu'il n'avait pas aboli cette réglementation quand il était Premier ministre et donc pas encore converti au poujadisme? Ou est-ce qu'il voulait simplement relancer le grave débat des chocolatines et des pains au chocolat? Ben voilà, nos chroniqueurs vous donneront leur avis dans un instant. Nous parlerons aussi du grand fait du jour, c'est Noël au mois de mai, avec la parution du rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public. Donc nous allons étaler avec complaisance et gourmandise les abus avérés de ce système, et puis décrypter. Alors en fait, on va les lire et les commenter, mais décrypter ça fait mieux si je veux un jour me gaver sur France Inter. Donc nous allons décrypter les principales mesures de ce rapport. International ensuite, avec la guerre au Liban et la destruction partielle du couvent des Sœurs Salvatoriennes par une frappe israélienne. Donc la communication de Tsahal, qui est donc l'armée israélienne, se défend en disant qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais les faits sont là, et puis surtout, on note une destruction systématique des habitations du sud Liban qui empêche le retour des populations civiles. Voilà, donc ce sera un sujet important qu'il faut évoquer. Et pour finir sur une note joyeuse, eh bien nous terminerons par l'analyse comparative de l'agitation gouvernementale qui a eu lieu pour empêcher les boulangers et les fleuristes de travailler le 1er mai, et l'inertie du même gouvernement face à une rave-partie géante sur un terrain militaire. Je ne sais pas si c'est joyeux, mais en tout cas, c'était au moins assez amusant à comparer. Alors, pour parler de tout cela, j'aurai le plaisir d'avoir les rêveurs de la réinformation, avec Richard Decez qui est déjà là, avec Alexis Poulain qui est déjà là. Nous serons rejoints ensuite par Arthur de Vatrigan et Xavier Van Leerd. Mais pour commencer, donc je me tourne vers nos invités du jour, les représentants de Unis pour nos enfants. Donc M. Daniel Choquet, qui est neuroscientifique, Mme Audrey Gonzalez et Jean-Claude Gianotta. Donc Audrey Gonzalez, vous êtes juriste, je crois.
Amateur, on va dire, juriste ou autodidacte. Ou autodidacte, non.
Et M. Gianotta, donc vous êtes président de Unis pour nos enfants. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez posez vos questions, faire part de vos remarques en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou en téléphonant au 01 46 51 00 85. Alors, donc ce soir, comme je le disais, nous abordons un sujet qui est quand même assez grave et qui peut concerner n'importe qui, puisque pour peu qu'on soit parent, on sait donc que des milliers de mineurs sont confiés aux services sociaux au nom d'une, d'une protection affichée, mais de toute évidence, il y a également beaucoup d'abus, et donc une question centrale, enfin plusieurs questions qui se posent, est-ce que le système de protection de l'enfance assure toujours bien sa mission ? Peut-il parfois se tromper ? Peut-il parfois abuser littéralement de ses prérogatives et dans quelles conditions ? Et puis surtout, évidemment, ben, que faire pour protéger les enfants des parents indignes, parce que ça existe également, mais sans faire pire que mieux en détruisant des familles qui trouvent à peu près leur équilibre. Voilà, donc, ben, Monsieur Giannotta, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire comment vous avez été alarmé, alerté par cette situation des enfants abusivement placés ou enlevés à leur famille ?
Alors, personnellement, je suis arrivé dans ce combat par le témoignage que j'ai eu d'un enfant enlevé à la naissance, alors à des parents qui eux-mêmes avaient été des enfants placés. Alors, j'ai trouvé ça un peu curieux, que j'y connaissais absolument rien dans le domaine, mais que des enfants qui auraient dû être protégés, qui devenaient adultes et qui, par une relation, donnaient naissance à un bébé, eh bien, on ne protégeait pas plus ses parents que ce bébé puisqu'on le plaçait à la naissance. Alors, un peu naïvement, je pensais tout simplement que dans notre société, quand on proposait un projet qui me semblait simple à résoudre, qu'est-ce qu'il fallait ? Donner un emploi, un logement, aider cette maman de 18 ans et demi. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai proposé, et je dis naïvement aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance. Et ben, j'ai compris assez rapidement qu'on me faisait tourner en bourrique et que ce n'était pas là-dessus que je pourrais trouver des solutions. Il n'y avait pas de solution parce que le projet...
C'est-à-dire tourner en bourrique ?
Alors, concrètement, j'habite dans les Alpes-Maritimes. L'enfant était placé dans les Bouches-du-Rhône. On m'a accordé un entretien dans les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est quand même 2h30 de voiture. Et puis, lorsque je suis arrivé avec une heure d'avance à cet entretien, on m'a demandé de m'asseoir tout simplement dans la salle d'attente. Et j'ai attendu. À 19h, un gardien est passé. Il m'a dit, monsieur, que faites-vous là ? Je lui ai dit, ben, j'attends, j'ai rendez-vous. Il dit, ah non, mais à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Moi, je fais ma ronde là. Je lui ai dit, ah bon, ben, si vous me l'assurez, je repars. Je repars, 2h30 de route, je renvoie un email. Peut-être m'avez-vous oublié, peut-être il y a eu un souci. On me redonne un deuxième rendez-vous un mois plus tard. Même scénario. Salle d'attente.
Alors, mais sans interlocuteur en face ?
On m'avait jamais fait ça, pardon ?
Sans avoir un interlocuteur en face au télé ? Non,
non, j'ai eu l'assistante et le gardien. Je me suis dit dans quel monde je suis. Je suis dans un monde, on va dire, de gens raisonnables, dans la recherche et le développement, dans l'ingénierie. On m'a toujours posé des problèmes et je n'ai vécu que par la résolution de ces problèmes. J'ai trouvé des solutions. Je pensais qu'au niveau social, c'était aussi simple. Et là, je me suis bien rendu compte qu'il ne suffisait pas d'apporter des solutions. Donc c'est le départ. Ça fait 12 ans. Ma curiosité m'a amené à rencontrer des associations. J'en ai rencontré de multiples. L'association... Racine en l'air, qui décrit la situation des enfants de la Creuse, qu'on appelle de la Creuse, qui sont des enfants réunionnais déportés en métropole. Et puis les différentes ADEPAP, jusqu'au jour où, il y a 3 ans, Pierre Verdier, qui est avocat au barreau de Paris, ex-directeur de la DAS, m'a demandé si je voulais prendre la présidence de cette association. J'avais organisé précédemment des colloques, etc. Et voilà comment je me suis retrouvé dans une association qui se veut fédérer l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire bien sûr les parents à qui on arrache ces enfants brutalement et on verra dans quelles conditions, mais la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, ça représente pratiquement 1 million de personnes en France aujourd'hui sur les 228 000 enfants placés, et donner la parole à cette catégorie de la population qui est invisibilisée, qui est inaudible. On parle beaucoup aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance. Il y a des commissions parlementaires, il y a des assises nationales, il y a des avocats qui parlent avec bravoure de tous ces dysfonctionnements, mais les parents, on ne les voit pas directement. Et donc, je vous remercie encore une fois et profondément parce que vous donnez la parole aux parents, comme Audrey, aux grands-parents, comme Daniel, et c'est l'occasion pour qu'on puisse s'exprimer. C'est vraiment notre objectif que, aux différentes couches de la population, parce que les informations préoccupantes se font dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, se font dans les écoles, se font dans le milieu du sport, par des personnes qui ne sont pas forcément très conscientes de la conséquence de l'information préoccupante. Pour une notion de danger potentiel, on va assez rapidement, en quelques démarches, parfois c'est plus long et plus sérieux, hein, je ne dis pas que tout est bâclé, non, il y a des situations qui sont étudiées sérieusement. Mais la grande majorité des cas, ce sont des instructions trop rapides, à charge des familles, sans contradictoire dans aucune des étapes, que ce soit de l'information préoccupante qui reste secrète, donc pas de possibilité de répondre, que ce soit jusqu'à l'audience où les rapports des services sociaux ne sont pas confiés aux familles. Donc les parents arrivent en audience, la plupart du temps, ils ne savent même pas qu'ils peuvent être défendus par un avocat. Donc ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent même pas ce que veut dire un enfant qui va être placé, et ils ne savent pas ce qu'on leur reproche.
Alors avant peut-être d'interroger et de donner la parole à Audrey Gonzalez ou à monsieur... Choquet, votre nom m'échappait. Il faudrait peut-être qu'on pose un cadre avec des questions qui sont peut-être un peu délicates, mais néanmoins importantes. Comment est-ce que vous distinguez qu'un enfant est placé pour des raisons légitimes ou non ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, là, ça n'est pas légitime et il faut agir ?
Alors nous, c'est simple. Hein. Lorsqu'un parent nous contacte, on demande le jugement. Les jugements, parce que malheureusement, les procédures se réitérant tous les 6 mois ou tous les ans. Parfois, ils arrivent avec une dizaine de jugements. Et dans ces jugements, qu'on analyse assez simplement, hein, un jugement, ça fait quoi ? Entre 4 pages, 8 pages, hein, c'est pas très long à lire quand même. On note tout ce qui est reproché aux parents. Et dans ce qui est reproché, la plupart du temps, il n'y a pas de maltraitance avérée.
Alors, il y a quoi ?
Il y a des, ce qu'on appelle, c'est pas nous, hein, le juge Michel Huette a écrit dans son livre, ce sont des accusations insinueuses, par exemple. Ses parents seraient insécures. Allez trouver dans le dictionnaire ce que veut dire insécure. Cette maman
déjà, c'est du franglais.
Est fusionnelle. Le logement est désinvesti.
Ça veut dire quoi, désinvesti ? Ça veut dire qu'il y a un parent absent ou...
Alors, nous, on ne sait pas. Ouais. On a fait un dictionnaire du vocabulaire utilisé par l'aide sociale à l'enfance, donc à partir de tous ces documents, puisque le juge rapporte dans la décision de justice quelques éléments du rapport. On n'a pas l'intégralité du rapport, il est inconnu, il n'est pas public. Mais ce qui provoque la décision du juge est inscrit. Et donc, on a créé un dictionnaire qu'on publiera bientôt, et où on voit ce niveau de langage qui est, en fait, quand on le lit rapidement, vous voyez, c'est comme si vous mettiez des lunettes d'inquisition, et à travers ces lunettes, on va utiliser des mots qui, justement, ne nécessitent pas de preuves, mais qui insinuent que vous êtes quelque part maltraitant ou incapable. D'ailleurs, la carence éducative, qui est une des principales causes de la décision de placement, est quelque chose d'extrêmement flou. Est-ce que nous tous, qui avons été parents, est-ce que vous avez été en carence éducative ? Je peux vous dire que oui.
Je peux vous dire que non. C'est possible, oui.
Mais ça n'est pas plus détaillé que ça.
Alors vous-même, si je ne me trompe pas, vous êtes intéressé au sujet parce que vous auriez pu être un enfant placé, c'est ça ?
Ah, moi, personnellement, oui. Oh, je suis âgé, j'ai 67 ans. Mais quand je considère mon enfance, qui était une enfance de famille plus que modeste, où les parents devaient travailler en équipe à l'usine, donc qui travaillaient parfois, qui s'absentaient de 14h à 22h, ils rentraient à 22h30, nous étions seuls, avec ma sœur, seuls, dans la région parisienne, avec un chauffage que l'on devait alimenter avec du charbon, donc forcément dans un niveau de dangerosité
important. Mais ça pourrait
suffire.
Ah oui, c'est ça. Oui.
Aujourd'hui,
en fait, quels sont les critères qui font qu'on définit qu'un enfant doit être placé ? Parce que là, par exemple, si un enfant vit dans des conditions financières difficiles, mais qu'il est aimé de ses parents, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est bête à dire, hein, mais est-ce que le fait d'être aimé de ses parents n'est pas un critère important qui fait qu'on doit rester au moins chez ses parents, même si c'est dur ?
C'est ce que nous revendiquons. Oui. Le droit de pouvoir au moins être pauvre, sinon pouvoir être aidé, sans que c'est des répercussions sur la vie et le traumatisme que provoque la séparation.
Et à votre avis, combien y a-t-il de cas, enfin c'est peut-être une statistique au doigt mouillé, mais de cas de placement abusif, est-ce que c'est une question qui n'a pas de réponse, hein, mais est-ce qu'on peut envisager un pourcentage sur 100 placements, combien sont abusifs ?
Cette notion de placement abusif est forcément subjective. Donc on n'aura jamais de statistiques. C'est pourquoi nous on dit... Si on veut parler de placement lié à de la maltraitance, alors la maltraitance doit être punie, et elle fait partie du pénal. Donc, quels sont les cas où les parents sont justiciables au pénal ? Ça, on doit pouvoir le savoir.
Nous, donc, ce sont les vraies violences, c'est-à-dire les coups.
Les vraies violences, l'inceste, les violences physiques, la maltraitance, tout ça existe. mais ça doit être traité au pénal, pas au niveau du juge des enfants.
Et, pardonnez-moi, il y a quand même une statistique que vous m'aviez citée la dernière fois que vous êtes venu sur cette antenne, qui était quand même un peu éclairante par rapport à la question que pose Pierre-Alexandre Bouclet. L'Italie place 5 fois moins d'enfants que la France dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, ce sont deux pays équivalents, avec la même culture, le même niveau de développement, le même type de pauvreté. Eh bien, en Italie, 5 fois moins d'enfants. Donc, pour 100 enfants placés en France, il n'y en a que 20 qui sont placés en Italie. Donc, il y en a 80 en France où on peut se poser la question.
C'est effectivement un raisonnement qu'on peut tenir. S'il y a pays équivalent au niveau, comme vous le dites, Richard, économique, social, culturel... on se retrouve dans la même configuration. Pourquoi la France a une politique de croissance du placement? Quand on dit une politique de placement, de croissance de placement, il y a par exemple des programmes de construction d'établissements. Dans l'Atlantique, on a eu un programme de construction de crèches extrêmement important. Une fois que vous avez ces établissements, il faut les remplir. Il y a des employés, il y a des directeurs. Et donc, c'est quand même organisé, structuré. On ne place pas des enfants comme ça sans la logistique qui va avec. Alors, effectivement, on pourrait se dire, puisque si en Italie, il y en a 5 fois moins, libérons 80% de ces 228 000 enfants, et déjà, on aura fait un grand pas. Bon, ça, c'est un raisonnement. Un autre raisonnement, c'est Pierre Nave, qui était l'inspecteur général des actions sociales, qui disait, lui, il y a au moins 50% de placements abusifs, parce que dans l'incapacité de traiter réellement les dossiers. 50%, c'est dire 100 000 enfants.
Alors, comment on en vient donc, ça veut dire que c'est quand même ce ne sont pas des petites dérives, mais c'est plutôt un vrai problème un système entier. Oui. Alors, comment expliquer? Alors, n'hésitez pas à intervenir, M. Jouquet, Mme Gonzalez.
Ce qu'on peut citer.
Comment expliquer que le système français soit à ce point déficient, est-ce qu'il y a une raison, quoi?
Donc ce qu'on peut citer également, c'est les cabinets d'avocats qui ont beaucoup de dossiers. On peut citer le cabinet de Maître Serrada, le cabinet de Maître Michel Hamas, qui a plus de 5000 dossiers d'assistance éducative, et qui, avec son regard d'avocat et le regard de ses confrères et consoeurs, estime... qu'il y a à peu près 80% de dossiers de placement qui ne sont pas justifiés. C'est-à-dire où il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de maltraitance avérée. La problématique, c'est que il y a d'une part l'effet du parapluie, c'est-à-dire que on pousse les organismes qui accueillent des enfants, comme les écoles, les centres aérés, les hôpitaux, à faire des signalements au maximum. Et d'ailleurs, les services sont complètement débordés. Les services de recueil de signalements sont complètement débordés devant l'avalanche de signalements qu'ils reçoivent. Ensuite, ces signalements, il va y avoir un effet de parapluie. Chacun va dire, avec un emballement d'un danger qui n'est qu'un soupçon au départ, sauf si c'est avéré. Et puis ensuite,
pour éviter d'avoir des ennuis soi-même. En fait, si je résume ce que vous dites, ce n'est pas tant un système qui protège les enfants qu'un système qui se protège, lui, d'éventuels problèmes de procès, de plaintes, qui pourraient ensuite mettre les responsables directs ou indirects dans l'embarras.
Tout à fait. Donc il y a un système, et d'ailleurs il y a un danger avec un projet de loi qui permettrait de placer encore plus rapidement les enfants dans les 24 heures en cas de présomption de danger. Pourquoi pas? On met à l'abri quelqu'un dont on présume qu'il va pouvoir être en danger. Mais on va pouvoir démontrer assez facilement après, avec une enquête, s'il y a un danger avéré ou s'il n'y a pas un danger avéré. Le problème, c'est que les enfants qui sont placés, en gros, c'est un aller simple. C'est-à-dire que ces enfants sont placés, le système ne se déjuge jamais. Et donc,
ça n'arrive pas, ça? On ne reconnaît pas
d'erreur? C'est rarissime. Ouais. C'est rarissime. Jean-Claude va connaître les chiffres.
On réussit quand même dans l'association. On a quand même un pool d'avocats formés. Et on est toujours heureux lorsqu'un enfant revient à la maison. Donc, on en cite tous les mois 2-3. Mmh. Effectivement, 2-3, vous multipliez par 12 mois. Ça fait une cinquantaine par an. Mmh. La progression du placement, c'est plusieurs milliers de plus par an. Donc, c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas.
Lorsqu'il rentre, est-ce que justement l'administration dit c'était une erreur et On vous rend votre enfant ou on vous dit, ou est-ce qu'on vous dit maintenant les conditions sont bonnes? Enfin, est-ce qu'il y a des excuses ou pas?
Il y en a. On a certains jugements où le juge dit directement aux services sociaux, demandez pardon. On a eu ça. Demandez pardon à la famille. Ce que vous avez fait n'était pas normal.
Il y a quelques témoignages de parents qui disent que le juge a présenté des excuses, en effet, quand c'est flagrant. Que c'est flagrant qu'il y a eu abus de pouvoir et que c'est allé trop vite. Et donc, mais c'est très rare. Hein, ce sont quelques témoignages parmi des milliers de témoignages de souffrance et de douleur. Parce que c'est ça qu'il faut aborder. C'est que c'est de l'ultra-violence systématique et systémique. Et je voulais compléter ce que ces messieurs ont dit. C'est que, il y a, de mon point de vue, il y a l'effondrement de l'État, la dérive totalitaire paranoïaque en cours, notamment depuis le Covid, qui a pris, je pense, une grande partie de la population. Il y a le scientisme envahissant, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire le médecin, il sait. Le spécialiste hospitalier sait, n'est-ce pas? Même si, en fait, il est complètement incompétent, mais ça, on s'en rendra compte un peu plus tard dans l'affaire. Et il va y avoir aussi quand même quelque chose à prendre en compte, et Michel Hamas le dit très bien, la moitié des affaires sont en fait des conflits parentaux ou conjugaux.
Alors, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il a très bien vu ce que moi aussi je vois sur le terrain. C'est parce qu'en fait, on le sait aujourd'hui, dans la première année de vie d'un bébé, il y a une chance sur deux que ses parents se séparent. C'est du pain béni pour l'ASE, puisque le conflit parental, c'est un motif. Puisque je vais vous...
Si jeune ?
Ah ben, évidemment, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est les recherches cliniques démontrent que ce dont un enfant a besoin, c'est la sécurité, le besoin de sécurité. Donc des attachements sécures. Mais ça ne nous dit pas un attachement sécure avec le ou les parents. C'est un attachement sécure. Donc pour, dans la dialectique de l'aide sociale à l'enfance des travailleurs sociaux, finalement, si l'enfant est attaché avec quelqu'un qui est extérieur à la famille, c'est OK. Donc le délitement est déjà en place, puisque c'est l'idéologie en place du côté du travail social. Mais c'est appuyé sur la recherche clinique, mais sauf qu'on est sur un dévoiement, on est quelque chose de vrai, de psychologiquement vrai, mais c'est dévoyé.
Avec une dérive, oui.
Mais on dérive ça, et du coup, évidemment, des parents qui se séparent, qui sont jeunes, qui n'avaient pas prévu la séparation, vont se trouver broyés dans une machine. Ils n'auront aucune piste au début, et c'est pour ça qu'il y a autant de placements, puisqu'il faudra souvent arriver après le placement pour se rendre compte, mince, si j'avais su, j'aurais dû me protéger. J'aurais dû d'abord quitter mon conjoint, prendre mes dispositions, trouver un nouveau logement, un nouveau travail, et ensuite j'aurais été portée plainte. Puisque si je fais l'inverse de ce processus, il y aura une information préoccupante par rapport, soi-disant, à un enfant qui serait en danger. Donc il y a ça, donc c'est ce que dit Michel Hamas, et je le rejoins, la plupart des dossiers que j'étudie, ce sont des parents seuls, ce sont des familles, des couples séparés.
Et c'est quand même très important ce que vous dites, là, parce que je reviens sur le fait que le parent n'est pas indispensable à l'épanouissement de son enfant, c'est vraiment une conception révolutionnaire du monde qui consiste vraiment, et on en voit des traces aujourd'hui dans plein d'autres événements, c'est-à-dire finalement même les GPA, les PMA, c'est un peu lié à ça, le fait d'autoriser l'adoption à des couples qui manifestement n'ont pas adopté, c'est aussi lié à ça, et le fait également d'encadrer de plus en plus la vie des gens en les coupant de leur environnement naturel. En fait, tout ça s'inscrit dans une logique qui est...
Oui, ça va. C'est ce que Vincent amène, justement, Vincent Pavan, par ses écrits.
Et ça va vraiment à l'opposé de toutes les connaissances scientifiques. Hein. Les recherches actuelles sur l'impact de la séparation précoce des enfants démontrent tous que c'est extrêmement délétère et qu'on va pouvoir voir des traces par épigénétique même dans la descendance de ces enfants.
Alors Daniel Choquet, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie que vous avez fait des études sur le cerveau. Donc vous parlez
tout à fait, je travaille
en
sur
connaissance
le...
de cause.
Effectivement, je parle en connaissance de cause et je travaille aussi beaucoup sur les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Et donc effectivement, on voit, quel est l'impact extrêmement délétère de ces séparations très brutales qui ne peuvent pas être remplacées par un attachement à une assistante sociale. Aussi sympathique soit-elle, bien entendu. Ce qu'il faut voir, c'est que les enfants ont une capacité de résilience importante, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter. Effectivement, on va pouvoir avoir l'impression qu'après 2 ans de placement, finalement, ils se sont réadaptés. Regardez comme c'est merveilleux, ils sont partis sur une nouvelle vie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le traumatisme est encore là, très profondément, et il va ressortir, quand ils vont être jeunes adultes, avec des impacts extrêmement délétères sur leur capacité à avancer dans la vie.
Dans ce que vous disiez, non seulement les parents sont démis de leur responsabilité parentale, mais on sent que l'ASE considère que les frères et sœurs de ses parents, les oncles et tantes de ses parents, les grands-parents, en fait, c'est toute la famille qui est éliminée du jeu. Oui. En fait, c'est comme si l'enfant naissait orphelin et que, fortuitement, on lui donne des parents, et si ce ne sont pas les parents que la nature lui a donnés, l'État lui en donnera d'autres, comme si les parents eux-mêmes étaient orphelins. Personne n'est lié à personne.
Oui, et je pense que ça attirera l'attention de vos auditeurs. C'est exactement ça. On est dans l'intérêt de l'enfant. On doit protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, pas celui de la famille. Donc il faut bien le comprendre et accuser réception. Et c'est bien pour ça qu'on peut déraciner un enfant pour des motifs de danger, de précarité, d'insalubrité du logement, de troubles du voisinage, de non-inscription à l'école, de non-déclaration à l'État, ça intéressera d'autres personnes, de nomadisme, de consommation de cannabis. Vous voyez, il y aura tout un panel, hein, vous trouverez énormément de choses hein, sur... Par exemple, la mère est tombée malade. Je vous fais un exemple, on va faire du concret. Comme ça, ça vous donne des idées, des motifs sur moi. Madame Gonzalez se présente avec un teint verdâtre. Ça apparaît dans le jugement qui va m'arracher mon fils. Qu'est-ce que veut dire la juge? Que j'ai l'air malade? Que j'ai l'air d'un consommateur de produits toxiques? Il y a quelque chose qui est sous-entendu. Des exemples trash, on en a à l'appel. Une mère apprend... que sa jeune ado lui révèle qu'elle a été certainement agressée sexuellement lors de visites d'un week-end chez le père. La mère fait une tentative de suicide lorsqu'elle apprend ça. Elle ne tient pas le choc émotionnel. On lui prend sa fille. C'est terrible, non? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. Au lieu d'accompagner cette famille à l'enquête, au dépôt de plainte, que le procureur, le parquet, la police puissent faire leur enquête et leur travail et mettre à l'abri cet enfant, se dire « Ok, là, elle vient de révéler un fait qui a lieu » côté paternel, donc on va la protéger momentanément, on va la confier à la mère, on va soutenir cette mère qui s'est effondrée, et ben on va placer cet enfant. Je vais aller plus loin parce qu'il faut l'aborder aussi. Et cet enfant va être mis sous traitement psychotrope plus tard, puisque elle-même ne va pas bien. Donc c'est une spirale infernale, en fait, l'ASE, elle est extrêmement délétère, de mon point de vue. Hein.
Alors vous avez eu la chance, enfin, ou l'énergie en tout cas, de récupérer votre enfant. On vous a pris votre enfant pendant un an.
Oui, moi j'ai
comment est-ce que vous avez
J'ai le mérite d'être passée de psychiatriquement atteinte, c'est-à-dire avec une expertise psychiatrique qui dit « Madame ne peut pas avoir les compétences parentales, elle a un trouble psychiatrique, on m'a rendu mon fils du jour au lendemain. J'espère que vos auditeurs entendent très bien, ce qui veut bien dire qu'il y a un problème. » Non,
oui, effectivement.
J'ai élevé mon fils pendant 2 ans. On me l'arrache avec force de police dans un tribunal de justice. Et un an plus tard, on me le rendra. On me dira, Madame, vous pouvez venir le chercher aujourd'hui. Pendant un an, j'ai été au régime sec, 1 heure de visite médiatisée par semaine. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. On est d'accord, on n'a pas un trouble psychiatrique une année et on ne l'a plus il y a un an. Ouais. Okay, ça n'existe pas. Donc c'est ce que j'ai découvert aussi. La fausseté. L'escroquerie, je vais te dire les mots, des expertises psychiatriques, il y a beaucoup de parents qui le dénoncent et c'est réel. Moi, je suis passée là-dedans, je vois très bien ce que ça donne. Donc, c'est une alerte et donc je reviens à ce que je vous ai dit, le scientisme envahissant, il est là. Ça peut être le praticien hospitalier, par exemple, qui va dire à une famille « Nous, on aimerait garder votre enfant en surveillance 48 heures parce qu'on a un doute, et puis la famille va dire « Non, excusez-nous, on a des obligations, on doit rentrer, on a d'autres enfants. » Ah ben oui, mais si vous rentrez à la maison, on fera une IP.
Ça veut dire quoi, IP?
Une information préoccupante. Cette famille est très au courant, c'est très bien ce que ça veut dire. Donc elle est tout de suite sous la peur et la menace. Et je vais aller plus loin pour avancer avec vous. Pourquoi ça dure depuis autant de temps? Parce que personne ne respecte le droit. Donc c'est pour ça que moi je refuse d'écouter les débats parlementaires ou à l'Assemblée, puisque le droit il est très clair, il est là. Sauf que s'il n'y a pas d'enquête correcte quand des enfants dénoncent des faits d'inceste, d'agression sexuelle ou de grave maltraitance, s'il n'y a pas ce boulot d'enquête qui est fait, si le procureur classe sans suite systématiquement et qu'à côté le juge des enfants fait parapluie, dit bon, ben on va ramasser les enfants par précaution. Mais c'est ça qui se passe. Donc les enfants qui devaient être protégés, qui doivent être protégés, ne le seront pas parce qu'on ne fera pas l'enquête. On n'ira pas aux enquêtes de l'instruction judiciaire. On va classer sans suite. Et de l'autre côté, des enfants dont la famille a besoin d'un soutien, d'un apport, peut-être d'être aidé pour être logé. Peut-être madame est fatiguée parce que c'est une deuxième, troisième grossesse rapprochée. Eh ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce sera plus de motifs pour justifier la décision du juge.
Alors, monsieur Choquet, oui. Vous-même, vous avez vécu un drame intime, puisque vous êtes le grand-père de trois enfants qui ont été enlevés à leur famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Et notamment parce que la fratrie a été divisée, ce qui semble complètement
explosé. Donc il y a vraiment un problème là de respect de la loi, puisque il y a les problèmes de l'aide sociale à l'enfance sont soulevés depuis plusieurs années, et il y a un certain nombre de parlementaires qui ont proposé des lois pour essayer d'améliorer ça, et en particulier une loi qui s'appelle la loi Taquet, qui a été promulguée en 2022, qui ordonne que, avant tout placement institutionnel, il doit y avoir une enquête familiale pour regarder s'il n'y a pas une possibilité de recueil des enfants dans l'entourage familial. Donc, c'est une loi qui devrait être en effet. Et en fait, pas du tout. Donc, dans notre cas, on avait notre fille et notre beau-fils qui ont trois enfants, trois jeunes enfants. Pour faire court, on va dire que c'est une famille qui avait besoin d'aide et de soutien. Il y a eu une enquête judiciaire qui a conclu qu'il fallait effectivement leur apporter de l'aide et du soutien. Et puis, une juge parachutée là, je dirais vraiment par hasard, ce qu'on appelle une juge volante, qui a dû passer exactement 30 secondes à lire le dossier, a décidé qu'il fallait les placer en urgence. Cette urgence a duré 2 mois. Et pendant ces 2 mois, nous, on s'est proposé immédiatement avec mon épouse pour être tiers de confiance, en disant, le temps que vous fassiez l'enquête détaillée éventuelle sur notre fille et notre beau-fils, nous, on se propose. On est quand même des gens respectables et respectés. On pense qu'on est en capacité, effectivement, d'accueillir nos petits-enfants, au moins pendant cette période transitoire. On n'a pas été écoutés. Ce n'est que 3 mois après qu'on a
Mais on vous donne une réponse, on vous dit...
3 mois après, on a été entendu par les services sociaux qui nous ont posé une seule question. Monsieur et Madame Choquet, qu'est-ce que vous pensez de la culpabilité de votre beau-fils? J'ai dit, pardon? Vous avez émis des soupçons. Ces soupçons, ils proviennent du comportement de nos petits-enfants qui, depuis, ont été diagnostiqués autistes. Donc, ils ont des comportements d'enfants autistes. Et simplement, les services sociaux, dans leur méconnaissance totale des troubles du neurodéveloppement, ont dit troubles de comportement des enfants, donc obligatoirement maltraitance.
Oui.
Et donc, sans aller plus loin, donc nous pose cette question, qu'est-ce que vous pensez de la culpabilité de votre beau-fils? Moi, je dis, c'est très simple, en droit français, il y a la présomption d'innocence.
Oui. Et puis, vous n'êtes pas juge ni enquêteur de police.
Ni juge ni enquêteur de police, j'ai dit, c'est pas ça la question. Ce dont on doit parler, c'est notre capacité à recevoir nos petits-enfants. Mais ces chères dames n'ont rien voulu savoir. Et effectivement, on fait un rapport négatif en disant les grands-parents sont de mèche avec leur beau-fils et leur fille. Ils sont donc dans l'incapacité de protéger leurs petits-enfants. Donc, refus du statut de tiers digne de confiance. Et puis, le jugement qui a été reporté ensuite, puisque les juges, finalement, ne font que faire... copier-coller, dans la plupart des cas, des rapports de l'ASE, effectivement. Donc moi, ça m'a mis très en colère avec mon épouse. Pendant un an, on a, on va dire, joué le jeu. On a essayé de rentrer en contact à nouveau avec les services sociaux. On a fait des appels, faire toute une œuvre, on va dire, judiciaire, habituelle. Et puis finalement, fin décembre 2025, on a eu une fin de non-recevoir définitive de la juge disant plus aucun contact des grands-parents avec leurs enfants parce qu'ils sont tristes quand ils vous parlent. Donc l'argument, c'est il faut qu'ils arrêtent tout contact avec leurs petits-enfants parce qu'à chaque fois qu'ils ont leurs petits-enfants au téléphone, les petits-enfants sont tristes. C'est ce qui est écrit dans le jugement.
Pardon, mais il faut être un abruti complet pour avoir ce genre de...
C'est bel et bien ce qu'on voit dans
le jugement. Je vous laisse la responsabilité de vos paroles. Moi, je vous donne les faits de ce qui est écrit dans le jugement. Et donc, maintenant, depuis 4 mois, on a
sérieusement, personne ne se doute dans l'administration que si un enfant est triste après avoir parlé avec ses grands-parents, c'est peut-être qu'il a envie de voir ses grands-parents. Enfin, je sais pas, ça semble...
On en vient à ce qu'on s'est dit, si on met que l'intérêt de l'enfant, vous voyez, en premier, sans une cohérence familiale, on arrive à ce résultat. Et je pense que l'exemple que donne Daniel, il est il est hyper révélateur. Ce qui s'est passé du côté des assistantes sociales, à mon avis, elles attendaient d'eux qu'ils disent « oui, le père est très certainement… »
Pour rentrer dans un entonnoir là, avec un.
Évidemment, s'ils logique. Avaient dit oui, ils auraient eu des droits avec leurs petits-enfants. Vous voyez, donc, mais, et donc il n'y a pas ce travail dialectique de discuter, de, vous voyez, et c'est très typique de l'aide sociale à l'enfance.
C'est très soviétique surtout, c'est-à-dire qu'il faut donner des gages pour ensuite obtenir une petite récompense sociale. Alors, Alexis Poulain, si vous voulez intervenir, surtout n'hésitez pas à lever la main, vous, vous aurez la parole. Jean-Claude Giannotta, je me retourne à nouveau vers vous, pardon. Quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, combien de temps ça dure un placement et dans quel... Quels sont les sélectionnés pour accueillir des enfants?
Alors, combien de temps dure un placement?
En moyenne.
Moyenne. Plus que moyenne, il y a soit nous arrivons à le sortir assez vite, Audrey, un an. Ce qu'on appelle assez vite, c'est, de toute façon, un jugement. Un placement, c'est 6 mois minimum, oui. Un an, 18 mois, 2 ans. Donc, quand on arrive à le sortir, soit on appelle, ça fonctionne parfois. Mmh. Et là, le placement est court. Ce qu'on appelle court, nous, on a des parents dont l'enfant est placé juste après le signalement. Donc, c'est une période qui va durer au maximum 15 jours. Donc, 11 jours pour l'un. Ils nous disent 11 jours, c'est une éternité en l'absence de son enfant pendant 11 jours. Mais pour nous, ce qu'on appelle court, c'est moins d'un an. Soit ensuite, c'est jusqu'à la majorité.
Ah oui.
Pourquoi
jusqu'à la majorité.
Mais oui. Le processus, quel est-il? Vous l'avez déjà compris, on l'a imaginé. On ne va pas juger sur ce qui s'est passé dans la famille, mais le comportement des parents. Vous arrachez un enfant à une maman solo, par exemple. On a des cas terribles qui ont entraîné vraiment les mamans dans la dépression, dans la colère, dans le refus, dans l'addiction. C'est la séparation qui a créé cela. Mais les services sociaux et les rapports qu'ils éditent, validés par les juges, inversent les causes et les effets. Si l'enfant a été placé, c'est que la maman a besoin de soins. Elle montre son déséquilibre en montrant sa colère, sa dépression, parfois son agressivité, sa violence. Mais nous, qui connaissons la violence qu'elle subit, qu'est-ce que cette manifestation de violence par rapport à ce qu'elle a subi? Et donc, le système est inversé. Et c'est là où nous intervenons. Lorsque nous avons les parents qui nous appellent, on essaie de les entraîner dans un processus inverse. Tenez bon, il faut que vous soyez solide physiquement, mentalement, financièrement, dans votre habitation. Si vous présentez faible, on va vous broyer. Parce que si encore c'était des raisons idéologiques, vous avez parlé de PMA par exemple, on pourrait se dire, tiens, voilà des gens qui veulent détruire la famille, qui veulent faire naître une autre génération d'espèces, bébés éprouvettes, etc. Mais combien de mamans nous avons dans l'association qui ont cru à la PMA et dont les bébés sont enlevés à la naissance. Vraiment, hein, des situations terribles. Hein. On m'appelle, je fais la queue dans une pharmacie, je parle bas parce que là, je vais acheter un tire-lait. J'ai accouché il y a 3 jours, on m'a arraché l'enfant ce matin, les gendarmes sont arrivés, gendarmes, médecins, services sociaux arrivent dans la chambre de la clinique et enlèvent le nourrisson, parce qu'il est issu d'une PMA. Et que... la maman,
mais si c'est légal, enfin.
Alors là, on est dans l'illégalité la plus totale. C'est Minority Report, hein, c'est-à-dire qu'on a prévu avant l'enlèvement. Quand le bébé est pris au 3e jour, c'est un cas classique. J'en ai déjà vu, malheureusement. C'est classique, c'est que c'était prévu en amont. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on reproche à la mère?
Alors, ça peut être, par exemple, des parents avec une déficience intellectuelle. Vous voyez, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans une. On est d'accord, c'est nazi, d'accord. On peut dire le mot. Deux parents avec une déficience intellectuelle,
plutôt,
au lieu de les accompagner, hein, je reste dans ma logique humaniste, hein, de les soutenir, d'accompagner, de préparer cette arrivée à la maison, de proposer l'intervention d'une TISF, d'une technicienne d'intervention sociale et familiale, de quelqu'un peut-être pour le budget aussi, il y a aussi les conseillères au budget familial. Non. Quand le bébé est pris au 3e jour, c'est que c'était prévu avant. Voilà.
En fait, ça veut dire que le personnel médical, à un moment donné, a décidé qu'il était mieux placé que les parents et leur famille. Et donc, le bien supérieur de l'enfant et de l'enfant seul. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est, on voit bien, c'est je fais le bien de cet enfant, et donc au nom du bien de cet enfant, tout le mal que je fais autour est annihilé, en fait. je suis sanctifié pour avoir sauvé cet enfant. Effectivement,
enfin, sauvé, soi-disant.
Enfin, soi-disant sauvé cet enfant. Et en revanche, le fait d'avoir broyé la mère, le père, les grands-parents, les frères et sœurs, oncles et tantes, tout ça n'est rien, leur souffrance n'existe pas.
Mais même l'enfant lui-même, parce que est-ce qu'on sait combien de temps il passe dans sa famille d'accueil? Est-ce qu'il y passe 2 ans? Est-ce qu'il y passe toute sa jeunesse? Est-ce qu'il passe d'une famille à un foyer, d'un foyer à une famille? Parce que pour le coup, alors, on a tous parcours. Connu des enfants comme ça qui étaient... pas manipulé, mais ballotté. Mmh. Voilà,
c'est
famille.
Le cas de nos petits-enfants. Hein. Nos petits-enfants ont eu 5 lieux de vie.
Mais c'est monstrueux.
Ils ont eu 5 lieux de vie, ils ont été...
Comment on justifie un truc pareil?
Ils ont été en foyer.
La stabilité, ça compte.
Mmh. Ils ont été en foyer. Notre petite fille a été agressée 2 fois, dont une fois sexuellement. Donc, elle a été retirée du foyer, placée en urgence dans une famille d'accueil. 1 mois après, elle a été retirée en urgence de cette famille d'accueil parce qu'il y a eu une dénonciation, certainement de faits de maltraitance de la part de l'homme qui était là, etc., etc. Mais ça ne compte plus. C'est-à-dire, l'enfant, on n'en parle plus. Une fois qu'il est placé, on n'en parle plus. La seule chose dont on parle, c'est « Ah ben non, monsieur Choquet, madame Choquet, ils passent à la radio, ils écrivent des articles dans les journaux. »
Donc ils sont punis.
Donc ils sont punis.
On vous confirme, pour les parents d'enfants placés, ce n'est pas une bonne stratégie de la communication publique. Mes parents ont été menacés, entre guillemets, hein, par l'inspectrice ASE pour avoir osé parler publiquement au début du placement de mon fils. Et c'est récurrent. Les parents qui vont oser alerter, dénoncer, aller chercher des médias seront systématiquement punis par derrière. Ils n'auront pas de droit.
Et les responsables de l'ASE, on peut les contacter justement pour leur demander de s'expliquer, de rendre des comptes. Est-ce qu'ils répondent ou est-ce qu'ils font silence?
Ils ne répondent pas.
Alors, certains cas, nous arrivons à avoir des entretiens en visio.
Non, mais je veux dire avec des médias. Est-ce que si Radio Courtoisie ou le Figaro, je ne sais qui, appelle ces gens et leur dit, voilà, il y a des problèmes, expliquez-vous. Est-ce qu'ils ont un service communication qui...
Oui, ils ont un service communication, souvent bien musclé, hein, parce que les présidents de département sont dans la sphère publique et ont des comptes à rendre, et souvent vis-à-vis de la justice, hein, vous connaissez quelques affaires. Donc le service de communication est présent. Je vous dirais, essayez.
Mais c'est important de mettre aussi les gens face à leurs responsabilités.
Je peux vous dire que dans notre cas, effectivement, d'abord, l'accusation est inversée parce qu'en fait, nous, on a commencé à avoir une action publique parce qu'on avait perdu tous les droits. Et parce qu'avoir une action publique qui est soutenue par notre avocat, c'était le seul moyen, effectivement, de continuer à avancer et puis de garder une stabilité psychologique aussi. C'est clair que moi, d'avoir rejoint l'UPNE et d'être compagnon de lutte sur cette problématique, ça nous permet aussi de continuer à vivre, malgré cette séparation douloureuse. Donc ça c'est une chose. Et donc après, évidemment, on dit « Ah ben, vous n'aurez pas de droit puisque vous permettez d'aller sur les réseaux. »
On ne vous l'écrit pas, public. Ça, quand même.
Ah si, j'ai une lettre de l'avocat.
Mais c'était hallucinant. J'ai une
lettre de l'avocat du département qui dit qu'il ne veut plus avoir aucun contact. Le département refuse d'avoir le moindre contact avec nous puisqu'on s'est permis... d'aller effectivement dans les médias, sans d'ailleurs jamais citer ni le département, ni l'endroit où sont placés nos petits-enfants, ni leur nom,
etc. C'est sidérant, ça. Vous pourriez nous l'envoyer, cette lettre? Parce que
avec plaisir.
Sincèrement, il y a un système d'omerta qui est scandaleux et qui est illégal. Je ne pense pas qu'on puisse empêcher quiconque de s'exprimer librement sur sa détresse, sa souffrance ou des abus, parce qu'il juge être un abus, et lui dire « maintenant vous êtes puni ». Enfin, c'est hallucinant.
Dans ce monde-là, tout est permis, hein. Michel Hamas, qu'on a cité souvent, dit « c'est le western ». À tel point, la loi, article L223-1, permet à tout parent d'être accompagné lors d'un entretien. Donc on se permet d'envoyer une personne avec l'article de loi au cas où « je viens accompagner, je ne parle pas, juste soutenir parce que c'est difficile ». Et on sait que face à un témoin, on ne s'exprime pas de la même façon. Dans combien de cas, pas systématiquement, hein, mais dans combien de cas, on nous répond, nous ici, on ne l'applique pas. Mais c'est la loi.
Mais de quel droit?
C'est la loi. Alors, on appelle le département. Vous savez, vous avez des îlots qui sont en dehors de la République dans votre département. Qu'est-ce qu'on fait? Mais les parents, ils s'en prennent.
Hein. Alors, et en fait, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'on sent bien que l'État considère que une fois qu'il a commencé à agir, personne n'a le droit de contester ce que l'État a fait.
Oui, exactement.
Voilà. Et que les agents de l'État sont aussi irréprochables que l'État lui-même.
Oui.
Et c'est ce que Liviu Poenaro appelle le pacte des négatifs. On ne va pas contredire le travail antérieur d'une structure AEMO, d'assistance, enfin d'aide éducative en milieu ouvert. On ne va pas contredire le rapport de l'enquête de la MIJ, la mesure d'investigation judiciaire. On ne va pas contredire le rapport de l'expert psychiatre ou l'expert psychologue qui a travaillé sur le dossier. C'est un pacte, hein, c'est vraiment quelque chose de tacite. Mais...
ils font partie des collègues et les collègues, on ne se sert pas avec les collègues, en fait.
Excuse-moi, Daniel, mais on ne trouve pas, je n'ai encore jamais vu un jugement d'assistance éducative. Peut-être que toi, Jean-Claude, t'en as vu, mais moi, j'en ai pas vu, où on trouve inscrit, là, il y a eu une erreur, c'était pas exactement ça l'information, finalement, après coup, après un autre entretien, on s'est rendu compte que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vu ça, moi. Le film continue. Quand le film a commencé en assistance éducative, quand le premier jugement y a écrit quelque chose, à moins d'une défense incroyable et de juges un peu corrects après, ils vont, c'est ce qu'il vous a dit Daniel, ils vont réitérer les mêmes choses au jugement suivant. Ce qui veut dire que si au départ c'était faux,
ça restera faux jusqu'au bout. Oui.
C'est trop tard. Vous aurez beau vous démener pour amener la preuve contraire, c'est trop tard. Et les avocats nous le disent. Bon, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Madame, c'est cousu de fil blanc. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Donc, il faut s'inventer une autre personnalité. Liviu Poenaro l'écrit très bien. Les parents deviennent un peu bipolaires. Mm-hmm. Parce qu'en gros, donc on
alors,
peut
ils font
pas...
quoi? Ils font semblant d'accepter une culpabilité?
Voilà, c'est là où je veux en venir. Il est préférable de faire semblant, de ramper et de lécher le parquet et de leur faire croire qu'on avait trop bu, n'est-ce pas? On n'avait pas bien compris à ce moment-là ce que c'était la psychologie de l'enfant, on n'allait pas bien. Il vaut mieux faire ça aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'il y a plein de témoignages de parents qui disent « Moi, c'est bon, j'ai compris. Je me suis brossée, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai mis du vernis, je me suis habillée, je me suis sapée différemment. Avec mon compagnon, on a revu notre stratégie, on a rampé, on a récupéré nos droits. » Et combien de témoignages on a des parents qui se battent, qui amènent les preuves factuelles écrite, je pense que Jean-Claude confirmera, factuelle, des médecins, des psychiatres, des psychologues, de l'entourage, de l'école, de la maîtresse. Ils vont amener tout ça et on s'en fiche.
Ça sera balayé.
Ouais, ça va être balayé.
Et alors, Alexis Poulain, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette situation ou une question à poser à nos invités?
En fait, on voit que c'est scandaleux et c'est l'administration qui décide pour vous, qui est à la fois juge, procureur, enfin tout en entièreté. Et on a l'impression qu'il y a très peu de recours. Le nombre de placements abusifs, j'ai l'impression qu'il augmente, ou du moins peut-être qu'on en parle plus qu'avant. Je ne sais pas exactement où on en est. Mais comment une administration peut être aussi... aussi violente et aussi finalement à l'encontre de ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire protéger les enfants.
Qui veut répondre?
Comment on en est arrivé là?
On
n'a
pas entendu.
Ah, vous n'avez pas entendu.
Ah oui, Alexis Poulain demandait comment se faisait-il qu'une administration qui est censée protéger les enfants en arrive à un tel degré d'inhumanité, si je peux me permettre de reformuler, Alexis.
Oui, c'est ça. Je pense que les explications sont multiples. Il n'y a certainement pas une seule explication. Hein. Mais j'aurais envie de dire que, comme tout organisme, il a tendance à vouloir continuer à exister et à se développer. Et donc, l'aide sociale à l'enfance, qui n'a plus aucun contrôle, hein, c'est-à-dire que c'est maintenant complètement éclaté dans tous les départements. Donc, on ne parle pas de l'ASE avec un grand L. On parle d'une centaine de sous-ensembles qui forment une espèce de conglomérat dont on ne comprend pas bien quelle est la hiérarchie au total, et puis surtout qui n'a pas, c'est le seul organisme d'État qui n'a pas d'organisme de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle.
La police à l'IGPN, l'IGAS, qui intervient à peine.
Un contrôle tous les 26 ans dans une structure, en moyenne.
Et donc cet organisme, il va vouloir continuer à exister. Et alors ensuite, il y a des conflits d'intérêts absolument majeurs. Il y a de plus en plus tendance à faire appel à des sociétés privées qui s'appellent associations, mais qui en fait sont des associations à but lucratif, qui recueillent ces enfants. Et l'État a de plus en plus tendance à faire appel à ces associations. Donc ça veut dire des milliards qui partent effectivement pour faire fonctionner un tissu économique. Donc là, il y a un conflit d'intérêts majeur. Il y a probablement... aussi au niveau de l'adoption, des questions qui peuvent se poser. Pourquoi est-ce qu'on place de plus en plus de bébés? Pourquoi est-ce qu'il y a des projets de loi qui tentent à pousser pour un abandon des droits parentaux plus rapide? Parce qu'effectivement, ça fait plus d'enfants adoptables. Et puis, il y a simplement la bêtise humaine, je crois, l'absence de formation. Moi, je ne crois pas en un mot de ce qui est une absence de moyens, parce que les milliards, ils sont là. Il y a 12 milliards hein, pour l'aide sociale à l'enfance. Si on plaçait ne serait-ce que 30% d'enfants en moins, ça ferait autant d'argent en plus pour aider ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés.
D'accord. Alors malheureusement, le temps file. Il nous reste quelques minutes à peine pour conclure notre entretien. Est-ce que vous pourriez, en une minute chacun peut-être, nous donner une piste pour trouver une solution à ces abus systémiques? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ou qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement?
Alors, dans l'association, c'est notre objectif. On se dit, tant que l'ensemble des couches de la population ne sera pas consciente de ce qui s'organise, on ne pourra pas avancer. On s'adresse aux politiques. On va dire, les plus écoutants nous font confiance, mais ne peuvent rien faire. Donc, notre stratégie, c'est de développer une structure. On parlait d'un million de parents concernés. Donc, d'avoir une organisation représentative qui puisse peser sur tous les niveaux. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Tous les niveaux de la société, je vous disais, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les hôpitaux, l'enseignement, les médias, les politiques, et d'avoir ce débat. Il n'est pas normal qu'on soit dans une procédure d'assistance éducative qui ne permet pas le contradictoire. Mmh. Les parents ne peuvent pas se défendre. Et il n'est pas normal, comme on l'a dit plusieurs fois, que la structure se justifie elle-même et que appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, on ne laisse pas parler l'enfant. Hein. C'est un mineur.
Oui, on parle au nom de l'enfant.
On parle au nom de l'enfant.
On parlera tout à l'heure avec les autres invités du rapport de la commission sur l'audiovisuel public. Est-ce qu'il ne faudrait pas une commission parlementaire sur le placement d'enfants Daniel Choquet?
Il y a eu des commissions. Il y a eu en particulier le fameux rapport Santiago, qui est un rapport de plusieurs centaines de pages, qui a fait des milliers d'heures d'audition. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien, qui a fini par accoucher d'un projet de loi qui a été déprogrammé au départ, le projet de loi de la ministre de la Santé, qui a été déprogrammé cette année, qui a fini finalement sous la pression des médias par être reprogrammé, mais qui est complètement vidé de sa substance. Donc oui, il y a des commissions parlementaires, mais on a l'impression que même l'État lui-même ne sait plus comment gérer ce monstre. Qui comporte des centaines de milliers de fonctionnaires territoriaux. Et donc, on a l'impression que l'État ne sait pas comment faire pour sortir de ce bourbier.
Alors, André González, est-ce que vous savez comment faire pour sortir de ce bourbier?
Voilà, je pense qu'à ce stade d'ultra-violence systémique, on peut juste appeler à la conscience et à l'humanisme, en fait, puisque c'est tellement grave que je suis assez persuadée qu'il y a au moins un parent par jour déparenté qui se suicide en France, que c'est tabou, parce qu'il n'y a que nous qui le savons, pour voir le terrain et voir les parents disparaître, ou des enfants. J'en suis déjà à 3 morts, hein, personnellement, au bout de 2 ans seulement d'activité militante, donc je pense que c'est révélateur. Donc j'appelle, moi, plutôt à la conscience, la prise de connaissance et de conscience que c'est extrêmement grave, c'est une ultra-violence systémique qui a lieu, et que il faut inviter les victimes, parents, enfants, familles, à sortir de la honte, parce qu'en fait, c'est comme ça que, entre guillemets, l'ASE nous tient, la honte, le déni, le tabou, notamment pour, des fois, il y a des affaires d'inceste, et heureusement, il y a la commission sur l'inceste parental qui a apporté beaucoup de clés pour comprendre ce qui se joue. Donc, je vous dis honnêtement, je ne compte pas sur l'État, sinon, il aurait bien évidemment pris grand soin d'organiser très très vite des solutions depuis un an, depuis le rapport Santiago, ce qui n'est pas le cas.
Bon, eh ben écoutez, merci en tout cas d'être venu. Nous, on est heureux à Radio Courtoisie de vous donner la parole. Donc, merci beaucoup Jean-Claude Gianotta, Daniel Choquet et Audrey González donc d'être venus nous raconter ces témoignages, mais aussi nous donner ces analyses sur les placements abusifs d'enfants. Et puis, je pense sincèrement que c'est un vrai combat à mener. Donc, j'imagine qu'on aura l'occasion de vous revoir régulièrement. Merci encore. Et on se quitte et on passe dans un instant à notre rendez-vous de la réinformation.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.